aussi. Bordeaux, c'est très connu dans le monde entier. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le Bordeaux?
Le Bordeaux, mais le Bordeaux, c'est la plus grande région viticole du monde. C'est 54 appellations, du blanc, du rouge, du vin liquoreux, du crémant, même de l'alcool, la fine de Bordeaux. Donc moi, je suis producteur en Médoc. C'est la presqu'île au nord de Bordeaux. C'est entre l'océan Atlantique et la Gironde. Donc c'est une presqu'île. Et en Médoc, on produit exclusivement des vins rouges de garde, tanniques, qui sont faits pour faire des vins vieux. C'est des bouteilles qu'on peut garder 10, 15, 20 ans et même au-delà.
Donc vous faites les deux sortes du vin, c'est ça? Les deux sortes Saint-Julien et au Médoc.
Alors tous ces vins sont des Médocs puisqu'ils sont produits en Médoc. Le Médoc, c'est une zone géographique de Bordeaux. C'est un Bordeaux, hein. Donc en Médoc, vous avez deux grandes zones. Le nord du Médoc, c'est le Médoc. Et le sud, c'est le Haut-Médoc. Et à l'intérieur du Haut-Médoc, il y a des appellations communales qui sont très connues, je pense, dans le monde. Margaux, Pauillac, Listrac, Moulis, Saint-Julien, Saint-Estèphe et Pauillac. Les cépages, c'est des cépages qui sont aujourd'hui répandus dans le monde entier, mais qui ont leur origine à Bordeaux. Ce sont les Cabernet Sauvignon, les Merlots, principalement. Après, vous avez Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec et Carmenère. Donc, je suis viticulteur en Médoc, Bruno Saint-Toux. Le siège de l'entreprise est à Saint-Laurent-du-Médoc. Et je produis trois vins, dont le domaine de Cartujac à Saint-Laurent-du-Médoc et en Médoc, le château Labridane à Saint-Julien et le château du Perrier à Saint-Christoly-du-Médoc.
Adrien Sobeau, domaine du Cinco, à Artigues-Louvre. Donc voilà, c'est un domaine familial.
Vous avez du vin blanc sec et vin blanc sucré?
Oui, on a les deux en Jurançon. On a les deux qui sont faits avec les mêmes cépages, avec les mêmes parcelles, avec évidemment certaines parcelles qui sont plus spécifiques au moelleux qu'au sec. Voilà, et la méthode de concentration en Jurançon, c'est pas la pourriture comme dans certaines autres appellations, c'est uniquement la déshydratation du grain. Donc c'est vraiment le vent et le soleil qui va venir déshydrater le grain et donc concentrer le jus. Voilà, et de ce jus, on n'en transformera dans les moelleux qu'une partie en alcool et le reste restera en sucre résiduel dans la bouteille.
Le côté.
Ah, voilà.
Donc vous pouvez nous parler de votre propriété?
C'est une propriété donc, comme tout le domaine du Jurançon en bas des Pyrénées, donc dans des collines, dans des coteaux. Voilà, on a 10 hectares de vignes, tout est autour du domaine. Ça nous permet de travailler avec beaucoup de proximité, pas beaucoup de déplacement des raisins, donc pas beaucoup d'écrasement des raisins. Tout ça pour préserver la qualité, faciliter le travail et avoir des vins de bonne qualité. Adrien Sobeau, domaine du Cinco à Artigues-Louvre. Donc voilà, c'est un domaine familial.
Ces vins qui sont sucrés, moelleux, doux, souvent on les associe à certains plats, à certains produits du terroir.
L'utilisation principale, c'est comme avec le foie gras, la plus connue, on va dire. Ça va aussi très bien avec certains fromages, fromage de brebis et roquefort, dans des choses plus étonnantes.
Et une petite triette de canard?
Par exemple aussi, hein, y a beaucoup d'associations. Après, on en donne quelques-unes pour donner quelques idées. Après, il faut en essayer d'autres, on les connaît pas toutes, et il y en a beaucoup d'autres qui vont très bien avec.
Et à l'apéritif tout seul, c'est bien aussi?
À l'apéritif tout seul, oui, puisque ça reste un vin sucré d'un côté, mais beaucoup de fraîcheur. Donc on n'a pas la bouche lourde en sucre et on a quelque chose qui reste assez léger, on va dire. Donc avant de passer à table, voilà, on passe à table dans de bonnes conditions.
Monsieur, du vin de Cahors, ça veut dire quoi?
Alors c'est un vin qui est élaboré dans la région de Cahors et qui est appellation d'origine contrôlée depuis 1971. Alors la typicité du Cahors, c'est un vin très aromatique, très puissant, ce qui pose quelques problèmes parce qu'on a des tanins relativement puissants et beaucoup de gens n'aiment pas trop les tanins, mais depuis quelques années, on a travailler sur la vinification, sur la qualité de la vinification, pour essayer d'assouplir tous ces tanins qui sont un peu rugueux au départ. Et nous y sommes parvenus, ce qui donne maintenant des vins que l'on peut consommer beaucoup plus jeunes. Puisqu'avant, sous la génération de nos parents, il fallait attendre au minimum 5 ans pour pouvoir consommer un Cahors. Alors que maintenant, pratiquement dans les 2 ans, on peut commencer à boire les Cahors. Parce qu'on a travaillé sur des, comment dirais-je, sur des vendanges que l'on essaye d'avoir plus mûres. On travaille surtout sur les rendements, pour maîtriser les rendements, pour avoir des vendanges assez égales partout par rapport au terroir, avoir gagné de la maturité, et de la finesse et de la concentration. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a des tanins qui sont beaucoup plus élégants, beaucoup plus souples, et beaucoup plus ronds, et beaucoup plus accessibles dans la première jeunesse. Alors moi, je suis situé à Puy-l'Évêque, c'est à 35 km de Villeneuve-sur-Lot et 35 km de Cahors, à l'ouest de Cahors. Donc c'est Puy-l'Évêque et nous, notre maison, c'est le Château La Reine. Disons que j'ai été, il y a quelques années, avec quelques collègues vignerons, on était 4 ou 5, on a créé des Cahors haut de gamme, et même très haut de gamme, puisque le chef de file, c'est Pascal Vérague, qui est au cèdre. Avec une réflexion commune, nous avons, comment dirais-je, relancé le Cahors avec des vins qui sont beaucoup plus ronds, beaucoup plus... J'aime pas le mot souple, mais beaucoup plus rond, des tanins plus élaborés, plus mûrs, plus fins. Et la génération d'après, celle de nos enfants, continue sur cette lancée et arrive à sortir de très 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 belles choses à Cahors actuellement. Aucune autre appellation dans notre terroir, aucune autre appellation dans notre cépage. On a un cépage tout à fait particulier, le Côte Noir, par le nom un peu holographique, et le nom mondial, c'est le Malbec. On a un cépage tout à fait particulier et qui réussit très bien dans notre région puisque nous avons l'influence océanique, puisque nous avons la proximité de Bordeaux qui est à environ 145-150 km par la route. Et ensuite, nous avons l'influence méditerranéenne qui nous vient du midi est du Toulousain, puisque c'est le vent d'OTAN qui arrive jusque chez nous. Le vent d'OTAN, c'est le vent de la Méditerranée. Donc nous avons ces deux influences. Nous avons particulièrement sur l'appellation Cahors, on a un microclimat qui permet de pouvoir élaborer des vins de grande qualité et notre cépage s'y exprime à fond, entièrement dans cette région, mais qui est toute petite, parce que l'appellation Cahors fait 25 km de long sur 7 ou 8 de large. C'est tout petit, mais on bénéficie d'un microclimat et qui est très favorable à la vigne et à ce cépage.
Donc vous avez plusieurs cuvées en fût et d'autres qui sont dans du métal ou...
Oui, on a plusieurs cuvées. Donc on a la première cuvée que vous avez dégustée, le Tradition, qui est un Cahors simple traditionnel qui est très agréable, qui se boit sur le fruit, qui peut se boire dans sa première jeunesse. Or, comme je disais tout à l'heure, avant on ne pouvait pas parce qu'on avait un tanin trop dur. Là, vu la maîtrise des rendements, les terroirs sélectionnés, on arrive à avoir des tanins très mûrs au bout de 2 ans. Donc on s'en sert, c'est des vins qui sont buvables au bout de 2 ans. Ils sont sur le fruit, les tanins, la rondeur des tanins, c'est tout ce qu'on recherche. Après on aime, on n'aime pas, mais c'est un vin très agréable. Ensuite on a la cuvée Prestige qui est élevée en fût pendant 18 mois, qui est vinifiée pour avoir une garde plus importante de l'ordre de 10 à 15 ans sans problème. Et là, on commence déjà à avoir des vins qui sont légèrement boisés pour passer ensuite à l'excellence, un vin qui fait 24 mois dans des fûts neufs, et après le vendange qui est, lui, carrément vinifié dans le fût. Mais il ne faut pas oublier que le fût, au départ, sur les 3 premières années ou 4 premières années, sur le prestige, 5 ans sur l'excellence et 7-8 ans sur le vendange, va être très présent au départ. Ça peut choquer, ça peut heurter. Mais une fois que le vin a trouvé sa plénitude, que le vin a évolué légèrement, parce que le vin, ça demande du temps, eh bien, on retrouve le vin qui a, comme moi j'appelle ça, qui a mangé son bois. Et il faut savoir quand même que le fût apporte énormément au vin. Il apporte des tanins qui sont différents, mais il peut apporter de la rondeur, de la finesse, de l'élégance. Et ensuite, tout un tas d'arômes qui sont dissimulés dans le vin, eh bien, le bois, lui, les remet en valeur. Vous avez des côtés épicés, poivre ou autre, qui ressortent grâce au bois. Les côtés vanillés légèrement qui ressortent par le bois, c'est les côtés réglissés qui ressortent par le bois, et c'est le bois qui aide à ces parfums à pouvoir s'extérioriser, alors que s'ils étaient confinés dans le vin, on aurait moins de perception de ces goûts et de ces valeurs. Donc c'est vrai que le bois apporte un plus. C'est vrai que sur des vins très puissants, parce que sur un bois neuf il faut un vin extrêmement puissant pour contrer le bois, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération de faire de la liqueur de planche, parce que ce n'est pas le but de la manœuvre. Le bois doit accompagner le vin, et ce n'est pas le vin qui doit accompagner le bois, c'est le bois qui doit accompagner le vin tranquillement, qui doit aider le vin à s'épanouir, et non l'inverse. Moi je connais des vins qui sont notamment des vins australiens, puisque moi j'ai assisté à des dégustations internationales pour faire les vins de l'UNESCO, le vin mondial de l'UNESCO il y a quelques années. Eh bien, vous avez des boisés américains, des boisés sud-américains, même des boisés australiens ou sud-africains qui sont pratiquement pour moi imbuvables. Enfin, pour nous, Européens ou Français, c'est très choquant, c'est écœurant de voir le bois qu'il y a dedans, c'est le bois qui domine tout. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que si on fait dominer le bois, malheureusement, le bois va peut-être masquer quelques défauts du vin. Alors que quand le vin est présent, il faut sentir un certain équilibre, même au départ, entre le bois et le vin, pour pouvoir se situer à un moment où on dira dans 10-12 ans, c'est un vin qui va avoir repris le dessus et qui va être extraordinaire à boire parce que le vin aura repris ses droits et s'épanouira tranquillement tout seul en ayant complètement éliminé ce côté boisé.
J'ai vu que vous avez plusieurs sortes de vin. Quelle est la différence entre les différents vins?
Bonjour, donc Brigitte Verdaguet, domaine Rancy. Nous sommes situés dans le nord des Pyrénées-Orientales, un petit domaine à la Tour de France, dans un petit village. Nous sommes à 30 km au nord de Perpignan. Donc, nous sommes des passionnés de Rancio, d'élevage oxydatif. Nous présentons une gamme de Rivesaltes Rancio à base d'un cépage macabeux. C'est un cépage qui est en voie de disparition. Le plus jeune, c'est un Rivesaltes qui a 4 ans d'élevage en fût. Et nous remontons jusqu'à 1948, un vin qui a été mis en bouteille il y a 2 ans, de l'élevage oxydatif, donc élevé dans des très vieux fûts qui sont centenaires, fûts de chêne. Et ensuite, nous faisons également, avec ce cépage macabeux et avec du carignan, un rancio sec. Donc ça, c'est de l'élevage oxydatif sur un vin qui est totalement sec. Et ensuite, nous présentons une gamme de cépages rouges issus de terroirs de schiste du village, schiste brun, dont des vieilles vignes de Carignan, centenaire, des vieilles vignes de Grenache noire et du Mourvèdre. Donc, 3 monocépages en IGP Côte catalane et un Côte du Roussillon village. C'est un assemblage de 50% Mourvèdre, 50% Carignan. Voilà. Et nous sommes en bio. Nous avons gardé les cépages traditionnels du Roussillon, le macabeu qui n'existe presque plus, les vieux carignans, bon, le grenache aussi c'est traditionnel de chez nous, et Mourvèdre.
Donc le macabeu, c'est quand même quelque chose dont vous êtes fier?
Ah ben bien sûr, on est des ardents défenseurs de ce cépage qui n'existe presque plus, je confirme, et qui donne pourtant de très très belles choses au vieillissement. Hein. Nous avons des vieilles vignes sur les coteaux avec des tout petits rendements d'une vingtaine d'hectares. Hein.
Pourquoi elle n'existe plus?
Ah parce que c'est un cépage qu'on a longtemps arraché dans le Roussillon, parce que bon... Si c'est vrai qu'un macabeu planté en plaine, on n'obtenait pas les mêmes résultats. Nous avons gardé les vignes sur les coteaux. Voilà, de très très vieilles vignes avec de tout petits rendements. Je vous dis, sur les rouges, on est à 15 hecto-hectares et sur les rives altes, on est à une vingtaine d'hecto-hectares.
René m'a présenté que votre vin c'est très très subtil. Et est-ce que vous pouvez me présenter ce que j'ai bu?
Ce que vous avez bu, c'est un Côte d'Auvergne Châteauguay Rouge Cuvée Boussée d'Or 2010. C'est un vin qui est produit avec le cépage Gamay, le même cépage que vous trouvez dans les Beaujolais ou dans certains vins de Touraine. Mais dans notre Auvergne, nous avons une petite variante, c'est le gamay d'Auvergne, qui n'est pas tout à fait comme le gamay du Beaujolais. Les grappes sont moins pommes de pin, sont moins serrées. Les baies sont plus lâches. Et vous avez ce que l'on appelle deux ailes bien différenciées dans la grappe. Au lieu d'avoir simplement une colonne vertébrale, vous avez deux bras, donc les grappes sont plus grandes. Et la typicité de notre terroir, c'est que nous avons un sous-sol calcaire, ce terrain blanc, recouvert de cendres volcaniques. Puisque nous sommes juste en dessous de la chaîne des volcans d'Auvergne. Vous savez, le site où il y a environ 80 volcans, qui donc ont arrosé de cendres nos coteaux. et ces cendres volcaniques que l'on appelle des pépérites ou graines poivre, du mot pepper anglais qui veut dire poivre. Et ce sol poivré donne un vin poivré, un vin épicé. C'est vraiment la typicité du Côte d'Auvergne et plus principalement du Côte d'Auvergne produit sur le village de Châteauguay. Donc village qui se situe au cœur de la région Auvergne, dans le département du Puy-de-Dôme, tout près de la ville de Clermont-Ferrand, entre Clermont-Ferrand et Volvic, donc en Auvergne.
Combien de vignerons à Châteauguay
Qui produisent du vin d'appellation Châteauguay, nous sommes actuellement 9 vignerons. Sur, je vous dirais, environ 80 hectares peut-être en ce moment. C'est une toute petite région viticole, alors que fin du 19e siècle, en 1895, nous avions approché dans notre département du Puy-de-Dôme les 50 000 hectares. Cette année-là, troisième département français pour la quantité produite. Je dis bien la quantité, parce qu'à l'époque, c'était de la quantité, pas de la qualité, hein. Faut bien reconnaître. Le meilleur vin d'Auvergne de l'époque, c'était celui qui tachait le plus les draps blancs, parce qu'il n'avait pas eu de gros rendements ou il n'avait pas été rallongé avec de l'eau. Mais on avait la possibilité, au 19e siècle, d'approvisionner Paris par voie fluviale, puisque nous avions à 15 km de Châteauguay le port fluvial de Pont-du-Château, d'où partaient les bateaux pour Paris, parce qu'après l'Allier rejoint la Loire, puis arrivait à Paris, ou par voie terrestre, ou par le canal de Briard, pour arriver par la Seine et à Bercy, chez les marchands de vin, et après distribué chez tous les bougnats de Paris. On montait tout d'Auvergne, on montait même de la glace du Massif Central, de la glace du Puy de Sancy, sur des bateaux. Et on montait aussi du charbon, parce que bougnat, c'est l'abréviation de charbonnier. Les gens qui allaient livrer le charbon, ils disaient charbonnat, puis c'est devenu bougnat, ce qui voulait dire auvergnat. Auvergnat et charbonnier, c'était la contraction des deux. C'était une autre époque, mais c'était bien sympathique aussi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Que je fais partie que je suis une des toutes plus vieilles familles de vignerons de mon village de Châteauguay. Ma rue qui s'appelle la rue de la Crouzette. La Crouzette, c'est la petite croix. Et la petite croix qui est sur le site est marquée Rougeron 1723. Il y a déjà 290 ans qu'elle a été érigée. Nous allons avec mon fils, enfin c'est plus lui que moi à vrai dire, enfin le fils sera bien les deux, créer une nouvelle cave, parce que nous avons pour l'instant une cave qui a plusieurs siècles, qui a trois niveaux de sous-sol, mais qui est très difficile pour travailler professionnellement et qui est trop petite pour ce que l'on veut faire. Donc on va créer de toutes pièces un bâtiment en plein cœur des vignes, alors que là nous on habite en haut du village. Notre cave est sur le site des caves de Châteauguay, qui est creusée sous le lieu dit La Crouzette d'ailleurs, où vous avez des dizaines et des dizaines de caves qui sont des galeries souterraines. Nous, c'est la plus grande, celle qui appartenait autrefois au châtelain du village et que mon père avait acheté après avoir... que son père était locataire dans les années 50, quand je suis né. Où nous mettons encore en bouteille. Vous voyez là, je suis ici, mon fils est là. Et on a des cuves modernes dans un bâtiment ancien, des cuves en inox. Et les fûts de chêne sont au sous-sol. Le domaine Rougeron produit Côte d'Auvergne d'appellation contrôlée, Châteauguay.
Oui, bonjour monsieur, j'ai remarqué que votre vin jaune c'est très spécial. Est-ce que vous pouvez me présenter ?
Bien sûr, avec plaisir. Ce vin jaune qui n'existe que dans le Jura, mais je vais y revenir, existe dans le Jura parce qu'il est fait avec un cépage, il provient d'un cépage qui n'existe que dans le Jura, le Savagnin. Ce vin de Savagnin va être élevé pendant 7 ans en tonneau et le vigneron ne va jamais rajouter de vin suite à l'évaporation naturelle du vin. Ça s'appelle le houillage. Pour tous les vins, il faut houiller le tonneau, puisque le vin va s'évaporer petit à petit du tonneau. Mais pour le vin jaune, au contraire, on ne fait pas de houillage. On laisse le vin s'évaporer et on va laisser le vin se mettre en contact avec l'air dans le tonneau, qui peu à peu va rentrer dans le tonneau. Et ce vin a la particularité d'avoir des levures indigènes contenues dans le vin de ce cépage savagnin qui vont former un voile de levure, une flore à la surface du vin qui va couvrir la surface du vin qui va protéger le vin de l'oxydation et de la piqûre acétique. Alors ce cépage savagnin a une histoire assez obscure. On lui attribue quelquefois des origines extérieures à la France, en Hongrie, puisqu'il y a certains arômes qu'on retrouve dans les toquets de Hongrie, communs au vin jaune, ou bien dans la région de Jerez, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, au sud de Séville, et dont la vinification est assez proche de celle du vin jaune. Et pour moi, c'est d'abord, et on retrouve, ce que je veux dire, se retrouve dans le sens du mot savagnin, qui est tout simplement sauvage. C'est un raisin, pour moi, autochtone, qui n'a pas voyagé. C'est une vieille vigne rustique à maturité tardive, avec beaucoup d'acidité, une peau très épaisse et qui donne peu de fruits. En quelque sorte, c'est vraiment un raisin, j'allais dire vulgaire au sens scientifique du terme, mais il a cette capacité à développer ces fameuses levures dès que le vin est en contact avec l'air et pour nous donner ce fameux vin jaune qui est tout à fait unique au monde. Le vin jaune est classé parmi les 100 plus grands vins du monde. Il a une longévité absolument exceptionnelle, on peut dire qu'il est immortel. Et même une bouteille ouverte de vin jaune va pouvoir se conserver pendant 6 mois, car le vin a été, pendant les 6 ans et demi d'élevage en tonneau, habitué, s'est affronté avec l'oxygène, s'est habitué à être en contact avec de l'air. Et si au bout de 6 ans et demi, 7 ans, il a fait preuve de cette force, de cette capacité à résister à la piqûre acétique, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas un problème de garder une bouteille de vin jaune ouverte. Alors c'est amusant parce que le vin jaune, il y a très peu de vins dans le monde qui ont ces caractéristiques gustatives, organoleptiques que l'on trouve dans le vin jaune, qui sont une odeur d'alcool et un goût de noix. Alors il y a quand même une chose qui est amusante, c'est qu'on le retrouve dans un vin jaune, ça s'appelle du vin jaune, en Chine, qui est fait à partir de riz, qui a une couleur un peu plus ambrée que notre vin jaune. Mais c'est vraiment étonnant parce que, en particulier au nez, le bouquet a une similitude assez marquée avec notre vin jaune du Jura. Et d'ailleurs, ce n'est sûrement pas par hasard que j'ai pu constater que de grands chefs de cuisine chinoise à Paris font de notre vin jaune un des plus beaux ambassadeurs sur la cuisine des vins français, sur la cuisine des chinoises, en particulier la cuisine avec les shiitake. Nous avons des arômes de champignons truffés dans notre vin jaune qui vont à merveille avec les shiitake. Voilà, c'est assez amusant. Il y a une amitié franco-chinoise à travers ce goût du vin jaune, soit à base de savagnin, soit à base de riz en Chine. Alors le château d'Arlay est une maison un peu particulière dans le Jura. On nous fait l'honneur d'être une sorte de grand cru du Jura, car le château, qui est aujourd'hui une magnifique propriété monument historique, qui reçoit beaucoup de visiteurs l'été, qui est un des grands domaines viticoles du Jura avec 25 hectares réunis autour du château. Ce château a une histoire particulière, elle est d'abord familiale, car le château n'a jamais été vendu ni acheté depuis sa fondation au Haut Moyen-Âge. Et c'est dès cette époque que le domaine viticole va être constitué. Certains auteurs, certains historiens du vignoble français attribuent au château d'Arlay d'être le plus ancien château viticole de France, attesté bien sûr par des archives avec des preuves historiques si vous voulez. Donc c'est à double titre d'avoir toujours été transmis par héritage jusqu'à aujourd'hui depuis si longtemps et de produire des vins depuis aussi longtemps. Ce sont deux faits tout à fait marquants du château d'Arlay, bien connu dans la région et que j'ai l'honneur aujourd'hui donc de conduire.
Votre nom ?
Je suis Alain Delaguiche. Je suis le propriétaire vigneron. Quand on hérite du château d'Arlay, on hérite également de son domaine viticole. Et je dois dire que ce sont de belles activités, bien sûr, à mener de front. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur de se savoir héritier de tellement de générations qui ont façonné la renommée du château d'Arlay, qui est aujourd'hui internationale.
J'ai entendu qu'il y a deux sciences très connues dans le Bourgogne. Est-ce que vous pouvez me présenter ?
Oui, on a deux principaux cépages, c'est le chardonnay et le pinot noir. Chardonnay pour les vins blancs et le pinot noir pour les vins rouges. Les deux donnent des vins qui peuvent se conserver quand même un peu, hein, en particulier le pinot noir qui lui va pouvoir évoluer pendant 7-8 ans et se conserver quelquefois 15 à 20 ans. Voilà, moi je m'appelle Pierre Gilles, on est une des plus vieilles familles d'un petit pays qui s'appelle Comblanchien, à 4 km au sud de Nuits-Saint-Georges. On existe depuis 1570 et on a une tradition de vinification qui respecte le pinot noir justement. On essaye de faire parler les levures sans être trop technique. On utilise des outils modernes mais on garde le respect du pinot noir. Voilà.
Donc en fait, vous avez des parties qui sont en Côte de Nuit et d'autres en Côte de Beaune.
Alors on a effectivement la majeure partie du vignoble est allée sur la Côte de Nuit et quelques Côtes de Beaune. Donc sur Côte de Nuit, on va de Moret-Saint-Denis à Côte de Nuit Village en descendant vers le sud. Et sur la Côte de Beaune, on a Pommard et un Corton Renard. Alors la majorité des vignes, c'est début de coteau. Hein, avec des villages ou des premiers crus. Et puis on a quelques vignes alors qu'il faut presque être alpiniste parce qu'on les fait à la main uniquement et c'est très escarpé. Ouais. Alors les plus escarpés, bah, c'est Nuits-Saint-Georges et Pommard.
Oui, vous êtes étudiante ici?
Oui, j'ai déjà fini mes études en octobre. J'ai fait mes études sur viticulture et œnologie en Chine pendant 4 ans. Et après, je viens en Europe dans un programme Erasmus Mundus. J'étudie les vins en France, Espagne et Italie. Et on fait un voyage d'études pendant 3 semaines en tour Espagne et Portugal. Et après, dans notre dernier module des études, on doit chercher un stage. Partout en Europe, et j'ai choisi Bourgogne.
Qu'est-ce que vous faites comme spécialité?
Viticulture et œnologie, et un peu marketing et commerce. C'est une école à Angers, ça s'appelle École Fécroup Leza à Angers. J'ai fait mes études pendant 4 ans en Chine sur viticulture et œnologie à Pékin, dans une université. Les vins chinois ont produit de plus en plus. Mais surtout sur le cépage Cabernet Sauvignon et pas beaucoup sur le Pinot Noir. Mais on a le vignoble de presque partout en Chine.
Donc Cabernet Sauvignon, on va dire que c'est un cépage français plutôt du Bordelais. Est-ce que beaucoup de Bordelais sont venus vous aider pour implanter des vignes?
Oui. Pas mal de Français venir là-bas.
Et dans quelle région sont les meilleures réussites pour justement mettre cette vigne?
Autour de Pékin, il y a une province qui s'appelle Shandong. C'est un peu au nord de la Chine.
Oui. Et donc, le marché de la production de vin
en Chine,
c'est beaucoup maintenant? Ça se développe?
Le vin chinois ou le vin en bord? Le vin chinois? Le vin chinois, c'est beaucoup plus moins cher que les vins européens en Chine maintenant. Pour les gens normaux, on le voit de plus en plus, les vins chinois.
Et les vins français, les gens connaissent beaucoup Bordeaux?
Oui, presque que Bordeaux.
Donc ici, vous représentez des vins de Bourgogne?
Oui, mais c'est difficile Bourgogne pour la Chine. C'est tout petit production, petit producteur. Et les classifications, l'appellation sont trop difficiles pour les gens à comprendre, même pour les Français. Et il faut faire la formation et l'éducation pour les gens, pour les consommateurs. Pinot noir est un peu trop acide pour les Chinois.